Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal présenté par Lievin Mbwinga.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal au micro Lievin Mbwinga. À la une de l'actualité, une importante quantité de farine de maïs importée de la Tanzanie interdite d'entrer au port de Kalundu au sud Kivu. Les sacs ont été refoulés par l'Office congolais de contrôle Uvira. Motif, la farine est impropre à la consommation, révèle l'OCC. Dans ce journal également, cette attaque de la Codeco dans une ferme du village Kunjangumi en Ituri. Bilan 6 morts, des vaches emportées et une dizaine de maisons incendiées. Nous en parlons dans un instant. Notre invité est le premier président de la cour d'appel du Tanganyika, Jean-Philippe Elumbu, vient de participer à la campagne de sensibilisation de formation des magistrats sur l'éthique, la déontologie professionnelle. Il va nous résumer l'essentiel de cette activité. Encore une fois, bonjour. Je le disais en titre, une importante quantité de sacs de farine de maïs importés de la Tanzanie a été refoulée par l'Office congolais de contrôle OCC Uvira. L'Office révèle que cette farine contient des résidus chimiques nuisibles à la santé humaine. Déclarée impropre à la consommation, toute la cargaison a été retournée en Tanzanie, d'où elle est venue. Jean Kassami pour les détails.
La cargaison devait entrer par la porte du port de Kalundu, agence d'Uvira, le mercredi dernier. L'Office congolais de contrôle OCC a été alerté par les services de la DGDA et de l'hygiène aux frontières comme quoi toute la quantité ne répondait pas aux normes de qualité et de sécurité requises pour la consommation humaine. L'OCC, cité par la presse locale à Uvira, précise également que la date de péremption était largement dépassée. Le premier vice-président de la FEC Uvira, Zembezembe Biamungu, précise.
Oui. Il y a une cargaison de farine de maïs que l'OCC a renvoyée en Tanzanie pour motif qu'il n'y avait pas mention de la date de fabrication et la date de péremption de cette marchandise. Raison pour laquelle ça a été renvoyé parce que ce n'était pas conforme, même que les échantillons soient pris pour être testés au labo. On ne savait pas si on va les tester par rapport à leur conformité. Et on ne connaît pas quand ça a été fabriqué et quand ça va périmer. Il y a même une qualité d'eau venant du Burundi, ça sera aussi renvoyé.
Les forces vives d'Uvira estiment qu'il serait préférable que l'OCC détruise carrément cette cargaison de farine que de les retourner en Tanzanie. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, nous parlons de cette colère des commerçantes, des vendeuses du marché central de Kinshasa spécialement, fustigent ce lundi la non-effectivité de la mesure du gouvernement sur la baisse des produits surgelés. À quelques jours de la fin de l'année, certaines s'étonnent de voir le prix de ces vivres frais prendre de l'ascenseur et demandent au ministre de l'économie nationale de s'impliquer. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda qui vient d'échanger avec ses femmes.
À l'approche des fêtes de fin d'année, les prix des produits surgelés ont galopé sur les différents marchés de la capitale. Il suffit de faire une ronde au marché central de Kinshasa pour s'en rendre compte. Une situation qui inquiète les revendeuses et revendeurs de vivres frais et l'une d'elles a même regretté de voir le gouvernement ne pas concrétiser ses promesses.
Le gouvernement fait souvent des promesses, mais il a du mal à les réaliser. Au moment où nous parlons, les vivres frais connaissent une hausse vertigineuse des prix sur le marché à tel point que nous, les revendeuses, nous ne savons plus quoi faire. Par exemple, un carton de poulet se négocie à 72 000 francs congolais au lieu de 60 000 comme d'habitude. Nous vendons un poulet de 11 grammes à 13 000 francs congolais. Vraiment, c'est trop.
À Radio Kapi, elle a rapporté qu'un carton de la viande de 10 kilos se vend actuellement à 120 000 francs congolais au lieu de 90 000 francs comme d'habitude. Elle a également fait savoir qu'un carton de 10 kilos de côte de porc se négocie à 70 000 francs congolais alors qu'il y a quelques semaines, il se vendait à 72 000 francs congolais. Cependant, des voix s'élèvent pour recommander au gouvernement de sanctionner tout ce qui entrave la mise en œuvre de la mesure sur la baisse des surgelés et autres produits de première nécessité sur les marchés.
Sécurité à présent, 6 morts, des vaches emportées et une dizaine de maisons incendiées. Bilan d'une attaque de la Codeco survenue dans un pâturage collectif au village Kunjangumi. C'était hier dimanche dans le groupement Moussaba, territoire de Djougou en Ituri. Selon des sources sécuritaires, ces assaillants recherchaient des membres du groupe armé Zahir, une milice rivale active dans la région, dont certains de ses éléments se cacheraient dans cet endroit. Martial Kiza Biamungu pour les détails.
C'est vers 14h, heure locale, qu'un groupe d'une dizaine d'éléments armés des Codeco ont attaqué le village de Kunjangumi, précisément dans un pâturage collectif qui héberge une centaine de vaches et bovins. Des sources sécuritaires dans la zone indiquent que ces assaillants en provenance de Abou et Boudou dans les secteurs de Walindou-Djati ont tiré plusieurs coups de feu dans toutes les directions, ce qui a créé la panique. La même source ajoute que ces miliciens auraient été informés de la présence des éléments de la milice Zahir qui s'organisait dans ces pâturages collectifs. Dans ces mouvements, 6 personnes, dont une femme et son bébé qu'elle portait sur son dos, ainsi que 4 bouviers et 2 vaches tuées par balle. 4 jeunes soupçonnés d'appartenir au groupe armé Zahir pris en otage. Avant de se retirer dans la forêt, ajoutent des notables de cette entité, ces assaillants Codeco ont emporté 35 vaches. Il y a environ 3 semaines, les violences armées causant mort d'hommes ont repris dans les territoires du Djougou après plusieurs mois d'accalmie. Bounia, Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
Une autre attaque a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, cette fois dans le carré minier communément appelé Libreville, toujours en Ituri. C'est précisément dans le village Bafouanankengele, axe Nyanya-Isiro, dans le territoire de Mambasa. Selon la société civile locale, ces malfrats armés, identifiés à des éléments Maïmaï en errance dans la région, ont tiré plusieurs coups de balle pour effrayer les orpailleurs avant d'emporter une importante quantité d'or et d'argent des mineurs. Tout en déplorant la recrudescence des attaques d'hommes armés dans des foyers miniers causant parfois mort d'hommes, le président de cette structure, Mungeni Yuma Imurani, demande à l'armée de tout faire pour mettre fin aux exactions de ces maïmaï contre la population. Mungeni Yuma Imurani a été joint au téléphone de Martial Kiza Biamungu.
Face aux attaques répétitives des groupes armés et des bandits armés dans nos carrés miniers en territoire de Mambasa, nous recommandons à la FRDC de veiller à la sécurité de la population et ses biens et aussi de traquer ces miliciens pour que nous puissions vivre en paix et faire notre service de l'orpaillage, des commerces, dans la paix pour le développement de Mambasa.
La société civile Force Vive du territoire de Mambasa condamne cette attaque et recommande à l'armée et la PNC de traquer le malfrat jusqu'à leur dernière demeure en fait de remettre la paix que la population a vécue pendant au moins 11 mois passés.
L'administrateur du territoire de Mambasa, qui confirme les faits, promet de donner plus de détails ultérieurement. Direction Nord Kivu à présent poursuit des combats ce lundi matin entre les FRDC et les rebelles du M23 dans le sud du territoire de Lubero. Les sources sécuritaires rapportent que depuis 6 heures du matin, des échanges de tirs à l'arme lourde et légère ont éclaté autour de la localité de Mambasa sous contrôle des FRDC depuis samedi. La localité est située à plus de 60 km de Lubero centre. Ce matin, les rebelles du M23 ont attaqué les positions de l'armée autour de Mambasa dans une tentative de déloger les FRDC qui ont répondu en utilisant des hélicoptères de combat et de l'artillerie lourde pour pilonner les positions rebelles. Depuis dimanche, l'armée tente de reprendre la localité d'Alimbongo située à quelques kilomètres de Ndolouma, également sous contrôle des FRDC. Des violents combats se poursuivent dans la zone, rappelant qu'Alimbongo abrite également un hôpital général de référence et plusieurs sites miniers. Pour clore ce chapitre consacré à la sécurité, sachez qu'une vingtaine de personnes sont désormais aptes à sensibiliser la population sur la paix au Maniema. Elles viennent de participer au colloque sur la paix organisé par la Fédération pour la paix universelle à Kindu dans cette province. Ces assises avaient pour objectif de susciter les participants à une prise de conscience sur la question sécuritaire que traverse la RDC, surtout dans sa partie est. Un culte œcuménique a bouclé dérouler les activités. À l'occasion, plusieurs personnes ont été décorées ambassadeurs pour la paix. La cérémonie a eu lieu à la tribune centrale de Kindu en présence de plusieurs autorités politico-administratives, sécuritaires et même la population. Le point avec Florence Kizalunga.
Au total, 20 personnes, dont le gouverneur des provinces, sont élevées au rang d'ambassadeurs pour la paix. Ils ont pour mission de prêcher la paix. Le directeur de la FPI est satisfait d'avoir atteint son objectif. Révérend Gilbert Boissa fait savoir que ces derniers seront tout d'abord formés avant d'exercer leurs fonctions.
Les Maniema, comme tout l'Est de la République démocratique du Congo, traversent des moments très difficiles. Ils méritent d'être totalement suivis en mettant en place un réseau des ambassadeurs pour la paix. Ces hommes vont travailler. Nous attendons d'eux un travail intense. Donc, ils doivent faire passer leurs caméras partout, leurs connaissances, pour que Maniema puisse être en paix et que, comme nous venons de lancer notre caravane de paix à partir de Maniema, que cette caravane aboutisse avec leurs contributions dans tout l'Est de la République, pourquoi pas dans toute la République démocratique du Congo, et surtout dans notre région des Grands Lacs qui est une zone totalement trouble. Ce n'est pas un titre honorifique, c'est plutôt une responsabilité et un travail. Travail de fond qu'il doit faire pour que la paix revienne effectivement.
Selon toujours ces derniers, ces ambassadeurs vont procéder à faire des sensibilisations à la paix et au bien-être, contribuer à amplifier le travail de paix, mais aussi faire les plaidoyers et lobbying pour le pays. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Le chef de l'État est attendu ce lundi à Kananga. Félix Tshisekedi va passer la fête de Noël avec les Kanangais. Il a été précédé par quelques membres du gouvernement, dont Patrick Muyaya, ministre de la Communication, et Constant Mutamba de la Justice sur la ville. L'ambiance monte déjà à quelques heures de son arrivée, nous dit François Kadima.
Plusieurs délégations arrivent pour l'accueil du président de la République attendu dans quelques heures à Kananga. Dans tous les états-majors de formation politique, c'est une forte mobilisation qui s'observe. Affiches, calicots, banderoles sont visibles devant les sièges de différents partis politiques et les longs des artères de la ville de Kananga. Ce matin, les porte-parole du gouvernement provincial, Piero Mutela, qui a confirmé l'arrivée du chef de l'État, a appelé la population à se mobiliser pour accompagner Félix Tshisekedi depuis l'aéroport jusqu'à la place de l'Indépendance où il tiendra son meeting. Plusieurs attentes pour la population, notamment les travaux de la route Kananga Kalamambouji qui doivent avancer vite et finir. D'ailleurs, selon le programme de son séjour, le chef de l'État visitera cette route, mais également les travaux entre Kananga Kamusha sur la nationale numéro 1. Le centre kassaïen attend également le président Tshisekedi sur la question de l'électrification de la province, surtout qu'il a annoncé dernièrement sa décision de financer le projet de barrage Katende sur fonds propres du gouvernement congolais. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Éducation, l'ONG Young Men Action for Education, préoccupée par la précarité des conditions d'études des élèves dans le Tanganyika. Il s'agit spécialement de ceux de la sous-division de l'enseignement Moba 2, territoire de Moba. Dans une déclaration ce dimanche à Radio Kapi, le point focal de cette organisation demande au gouvernement et aux organisations d'améliorer les conditions d'études des enfants dans cette partie du territoire de Moba. Certains élèves, vous allez l'entendre, s'assoient sur des pierres et les huttes font office des salles de classe. Le point avec Paulin Munanga.
Il s'agit des écoles d'enseignement primaire qui sont situées généralement au bord du lac Tanganyika dans la sous-division Moba 2, groupement Kapampa, dans la chefferie Manda, précise le point focal de l'ONG Young Man Action for Education. Parmi ces écoles, il y a Kabwela, Mukomena, Waenga et tant d'autres. Il fait savoir que des élèves s'asseyent sur des pierres faute de bancs pupitres, des huttes font office de salles de classe et d'autres élèves étudient sous les arbres. Placide Muyumba, point focal de cette structure.
Il y a plus de 4000 élèves qui étudient dans des conditions inhumaines. Certains étudient sous les arbres, les autres s'asseyent sous les pierres. Ce sont des conditions qui ne sont pas du tout recommandées par l'enseignement. Nous sommes au 21e siècle. Nous demandons aux autorités, gouvernement provincial et national, aux organisations non gouvernementales, aux autres institutions internationales, aux hommes de bonne volonté, de venir en aide ces contrées.
En plus, cette ONG déplore le fait qu'il n'y a pas de communication de la téléphonie mobile dans cette contrée du territoire de Moba. La population se contente de la phonie. Kalemi, Polemunanga, Radio Okapi.
La police de circulation routière interdite de tracasser les conducteurs des engins motorisés. Ainsi vient de décider le gouverneur de la province de la Tchopo qui décrète la courtoisie routière. Cette campagne va du 21 décembre au 21 janvier prochain. Toutefois, ces conducteurs sont aussi tenus au respect du code de la route. Cette mesure du gouverneur Paulin Lendongolia a pour objectif de permettre à la population de passer les fêtes de fin d'année dans la quiétude.
Actualité internationale.
Le ministère iranien des Affaires étrangères a affirmé ce lundi 23 décembre son soutien à la souveraineté de la Syrie après la chute de Bachar el-Assad au terme d'une offensive rebelle, tout en affirmant ne pas avoir de contact direct avec les nouveaux dirigeants syriens.
L'invité.
Notre invité est Jean-Philippe Elumbu, premier président de la Cour d'appel du Tanganyika. Il s'exprime en tant que participant à la campagne de sensibilisation et de formation des magistrats sur l'éthique, la déontologie professionnelle ainsi que la procédure disciplinaire. Une formation organisée à Kalemi par le Conseil supérieur de la magistrature. Jean-Philippe Elumbu s'entretient ici avec Paulin Mounanga. Suivez.
Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel du Tanganyika, Jean-Philippe Wangondola Elumbu, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes en train de participer à cette formation. Qu'est-ce que vous retenez d'essentiel?
Bon, il faut savoir avant toute chose que depuis un certain temps, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le magistrat suprême, a à chaque occasion fait le constat du dysfonctionnement de l'appareil judiciaire. Et en même temps, il ne ménage aucun effort pour pouvoir booster notre justice au niveau du standard international. C'est ainsi que, dernièrement, il a été organisé des ateliers des états généraux de la justice à Kinshasa et qui ont quand même abouti à certaines résolutions pertinentes dont nous attendons la mise en œuvre à court, moyen et long terme. Et au-delà de cet atelier, sur l'initiative du président du Conseil supérieur de la magistrature, le présent atelier a été organisé pour le renforcement des capacités des magistrats du ressort de la Cour d'appel du Tanganyika dans le thématique telle que l'éthique, la déontologie professionnelle et la procédure disciplinaire de magistrats. Voilà l'objet de l'atelier que nous sommes en train de suivre.
En quoi cette formation est bénéfique pour vous, les magistrats de la province du Tanganyika?
Écoutez, le magistrat en général, et particulièrement ceux de la province du Tanganyika, est un acteur principal de l'administration de la justice. Et pour mieux faire, je crois que la hiérarchie a vu juste, parce qu'il fallait d'abord, avant de guérir la justice dont on dit qu'elle est malade, il fallait renforcer les capacités du magistrat en tant qu'administrateur de la justice, que lui-même soit guéri. Et la formation que nous avons suivie ici et qui est en train d'être achevée nous aide, nous en tant que magistrats, à nous améliorer dans notre conduite. Et c'est comme une sorte de boussole pour nous dans la prestation que nous sommes appelés à faire pour rendre justice, que ce soit le magistrat du parquet ou du siège, qu'il soit civil ou militaire. Dans ce que, en parlant du magistrat du parquet, la vie qu'il émet ou les réquisitoires qu'il soutient ou la décision pour le magistrat du siège qu'il rend, il doit pouvoir tabler sur les valeurs de l'éthique professionnelle. Ça doit être de décisions ou des avis ou des réquisitoires fondés sur la loi et qui visent l'objectif d'une saine et bonne administration de la justice fondée sur le respect de la loi, sur l'intégrité et la probité.
Monsieur le Premier Président, il y a des plaintes de la population sur les mauvais comportements de certains magistrats dans la province du Tanganyika. Est-ce que pensez-vous que cette formation va aider dans les changements de comportements de ces magistrats, notamment sur le plan professionnel?
Nous le pensons bien parce qu'il s'agit d'un atelier de renforcement des capacités. Donc ici, on a quand même appris beaucoup de choses sur la procédure disciplinaire et tout ce qu'on a appris comme leçon par rapport aux thématiques développées va vraiment améliorer la conduite des magistrats, par-delà tout, l'administration de la justice dans notre ressort.
Et à part une formation pareille, quelle autre chose pensez-vous qui pourrait être faite en faveur des magistrats pour les rendre encore plus efficaces?
Au fait, comme vous le savez, il existe quand même un effort remarquable de la part des autorités pour l'amélioration des conditions de travail des magistrats, bien que ce n'est pas encore assez. Et cela constitue un gage pour nous d'une suite favorable dans le fonctionnement de notre justice. Sinon, de remercier la haute hiérarchie pour l'organisation de cet atelier qui vient de s'achever tout à l'heure.
Monsieur le premier président de la cour d'appel du Tanganyika, Jean-Philippe Wangondola et Lumbu, Radio Okapi vous dit merci.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Martin Sebujangwe, à Élisée Chikota et à Alain Goy. Bon après-midi à tous.